Après. Chapitre 20. La journée est déjà bien avancée quand Kate remarque le court article dans l'exemplaire gratuit du Times qu'elle a récupéré au supermarché la veille. Elle prend souvent le journal gratuit, mais le lit rarement. Aujourd'hui, elle l'a feuilleté parce que la une annonçait un article sur les relations sexuelles après 50 ans. Elle tourne les pages rapidement, mais son œil est attiré par le nom Camden en bas de la page 8. Disparition d'une lycéenne de Camden. La police interroge le voisinage. Sous le titre figure la photo d'une jeune fille aux traits magnifiques, aux yeux verts pâles et au sourire énigmatique. Elle porte de grandes créoles aux oreilles et ses cheveux noirs et frisés sont rassemblés en une tresse plate sur le côté. Kate ne la reconnaît pas immédiatement. Elle commence à survoler l'article, puis revient à la photo, et soudain, elle comprend. Camden, une lycéenne de 17 ans, Saphir Maddox, est portée disparue depuis la soirée du 14 février. Elle allait rendre visite à une amie à Hampstead. Saphir, qui vit avec son oncle Aaron Maddox, 27 ans, à Alfred Road, est en terminale au lycée Havelock, NW3. Saphir est une bonne élève, bien intégrée. Selon son oncle, elle a quitté le domicile aux alentours de 23h le soir de sa disparition. Elle portait un jogging sombre, un pull à capuche noire et des baskets blanches. Horrifiée, Kate pousse un petit hoquet de surprise et regarde autour d'elle, à la recherche de quelqu'un à qui faire part de la nouvelle. Les enfants sont en vacances, mais ils ne sont pas à la maison, et Rowan est au travail. Elle attrape son téléphone, prend l'article en photo, et avant d'avoir réfléchi aux conséquences de son geste, l'envoie à son mari. Cela fait des mois que le nom de Saphir n'a pas été prononcé à la maison, mais bien évidemment, Kate n'est pas prête de l'oublier, à plus forte raison quand il apparaît dans le journal. La coche reste grise. Rowan met son téléphone en mode avion quand il est en consultation. Il oublie presque toujours de se remettre en ligne ensuite et passe le reste de la journée ainsi, injoignable, jusqu'au soir. C'est l'une des nombreuses choses qui avaient alimenté les soupçons de Kate l'année dernière. Comment pouvait-il avoir en permanence un téléphone éteint dans sa poche sans ressentir le besoin de le rallumer? Elle relit l'article. C'était il y a 6 jours. La Saint-Valentin. Rowan et elle avaient passé la soirée au coin de la cheminée dans un pub de Hampstead, puis avaient dégusté un curry rouge de bœuf au restaurant Thaï sur le chemin du retour. La soirée avait été agréable, ils avaient parlé, leur complicité semblait intacte. Ils avaient ri. Pour une fois, ils n'avaient pas eu l'air d'un couple marié depuis une éternité qui tente de sauver les apparences en public pour cette fête symbolique, mais d'un couple vraiment heureux, ravi de partager ce moment ensemble. Mais pendant ce temps, Saphir déambulait entre Swiss Cottage et Hampstead, vêtue bien trop légèrement pour cette soirée glaciale. Peut-être l'avait-il croisée? Peut-être avait-il vu quelque chose? Était-ce possible? Elle secoue la tête. Bien sûr que non. Des milliers de gens étaient de sortie dans les environs le soir de la Saint-Valentin, et Saphir avait pu aller dans des centaines d'endroits. D'ailleurs, elle n'était peut-être jamais venue à Hampstead. Elle avait peut-être raconté un mensonge pour se couvrir, prenant la direction opposée en sortant de l'appartement sans que son oncle ne le sache. Elle ouvre son ordinateur et tape « Saphir Maddox ». Tous les journaux ont publié un article sur la disparition, avec le même portrait de la jeune fille. Elle n'y grappille aucun détail supplémentaire. Vers 14h, Rowan refait surface. Oh mon Dieu. Oui. Il n'a pas lu la réponse de sa femme. Il est déjà reparti. La carte que Rowan a reçue pour la Saint-Valentin est encore dans un tiroir de la cuisine, dans son enveloppe déchirée. Kate l'avait cachée sous une pile de torchons, à l'abri des doigts curieux des enfants. Elle s'était refusée à la lire le soir même, après un si bon moment passé avec Rowan, et le lendemain aussi. Puis le week-end était arrivé, le début des vacances scolaires, et étonnamment, elle l'avait oublié. Ce morceau de carton jure avec l'atmosphère harmonieuse qui règne chez eux. Depuis ce soir-là, leurs échanges sont agréables, et ils ont couché ensemble 2 fois, toujours à l'initiative de Kate. La carte est devenue une poussière métaphysique, un non-événement. Jusqu'à cet instant précis. Elle plaque ses mains sur ses oreilles pour arrêter l'idée qui traverse ses pensées comme un TGV. Cela la projette un an en arrière, quand elle était chaque jour en proie au doute, quand chaque minute de chaque journée était placée sous le signe de la paranoïa, de la méfiance. Elle avait été très malheureuse et ne voulait pas revivre ces mois difficiles. Désormais, elle est heureuse, dans le monde rose de la Saint-Valentin et des étreintes furtives. Mieux vaut changer les draps. D'habitude, elle n'est pas du genre à se vider la tête avec des tâches ménagères, mais la voilà en train de s'activer dans les trois chambres de l'appartement, essayant de chasser de son esprit le contenu du tiroir de la cuisine. Dans la chambre de Georgia, elle retire les draps blancs comme neige, seule couleur dans laquelle sa fille accepte de dormir. Les jours bénis des fées roses et violettes sont décidément révolus. Une literie blanche, des lampes assorties, une peau de mouton immaculée. Quand sa fille était plus petite, vers 13 ou 14 ans, Kate ne pouvait pas s'empêcher de fouiller dans ses affaires, en quête d'indices sur la jeune femme qu'elle était en train de devenir. Aujourd'hui, elle n'en ressent plus le besoin. Georgia se confie à elle en toutes circonstances. Elle ne lui cache rien. Kate défait le lit rapidement, roule les draps en boule et les laisse tomber sur le sol du couloir. Puis, elle entre dans la chambre de son fils. Josh a toujours été un garçon ordonné. Elle retire les draps de batiste bleu et refait le lit avec une parure verte. Son ordinateur portable est posé sous son lit, en train de charger. Elle est tentée de l'ouvrir, de découvrir ce que son enfant y fait quand il est seul. Mais sans qu'elle sache pourquoi, la vie privée de son fils lui semble plus sacrée que celle de sa fille. Elle est incapable de se l'expliquer, c'est comme ça, c'est tout. Elle se rend ensuite dans sa chambre, le domaine conjugal où les ébats ont repris leur cours depuis 5 jours. Elle enlève les draps gris, les prend dans ses bras et les ajoute à la pile du couloir. Elle met un nouveau drap bleu clair et enfile la couette dans une housse propre. Les rideaux sont encore tirés. À cette période de l'année, il peut paraître inutile d'ouvrir les rideaux d'une pièce que l'on quitte alors qu'il ne fait pas encore jour et où l'on ne reviendra pas avant la nuit tombée. Elle les ouvre et est surprise un instant de retrouver le monde extérieur. Sa rue est toujours là. Le voisin avec son chien blanc, la poubelle à l'angle qui n'est vidée qu'une fois toutes les 2 semaines, quand son contenu a déjà commencé à se déverser sur le trottoir, une camionnette de livraison de supermarché, une autre d'Amazon, et la maison d'en face avec le fauteuil dans l'allée. Elle s'interrompt, se souvient. Elle se tenait exactement là. Il faisait nuit. Il s'est passé... quoi ? Quand ? Elle secoue légèrement la tête, essayant de raviver la trace du souvenir. Est-ce que c'était ce soir-là ? Celui de la Saint-Valentin ? Fermer les rideaux, juste avant de coucher avec Rohan, quand soudain elle avait vu une silhouette dehors. Du mouvement. Des voix étouffées. L'impression d'être surveillée. Est-ce qu'elle se faisait encore des films ? Elle n'était pas sobre après tout. Ils avaient bu du champagne, puis une bière et encore une autre au restaurant thaï. Oui, elle avait un sacré coup dans le nez. Elle se retourne comme si on venait de prononcer son nom. Mais personne ne l'a appelée. Elle est seule. C'est la carte dans le tiroir de la cuisine qui l'attire. Elle cherche à lui dire que quelque chose lui échappe, qu'elle n'est pas folle, qu'elle ne se trompe pas. Avant de prendre conscience de ses actes, elle a déjà ouvert le tiroir, fouille parmi les torchons et trouve la carte. Ses mains tremblent quand elle la sort de son enveloppe. Dessus, il y a une sorte d'oiseau rose à l'aquarelle, assez insipide. À l'intérieur, dans une écriture de petite fille, elle lit « Cher Rohan, merci d'être mon psy. Tu veux bien être mon Valentin ? Bisous, Molly. » Elle referme la carte et s'écroule contre le mur. Une carte d'enfant. Molly. La petite Molly qui fait des fautes d'orthographe. La petite Molly qui demande à un homme chauve de 50 ans d'être son Valentin. La petite Molly qui connaît leur adresse. Elle range la carte dans l'enveloppe et la replace entre les torchons, le cœur battant. 2 heures plus tard, Georgia rentre à la maison accompagnée de Tilly. « Oh, bonjour Tilly !» s'exclame Kate en levant les yeux de son ordinateur. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'est la première fois qu'elle revient ici depuis ce soir de janvier où elle aurait subi une agression sexuelle. Comment vas-tu ? Bien, répond l'adolescente en regardant ses pieds. Ça va. Georgia dévalise les placards à la recherche de nourriture. Elle meurt de faim, apparemment, n'ayant pas pris de petit déjeuner et n'ayant mangé que 2 ou 3 nuggets à midi. Elle tombe sur un paquet de pop-corn et sert 2 grands verres de jus de fruits, puis les filles disparaissent.
« Merci d'avoir changé mes draps !»
crie-t-elle à sa mère depuis sa chambre.
« De rien !»
Kate se rassied et tente de se concentrer sur son travail, mais trop de choses encombrent déjà son cerveau. La carte de Molly. Mais qui a écrit sur l'enveloppe? Qui a acheté et léché le timbre? Qui l'a mise dans une boîte aux lettres? Le sentiment d'étrangeté qui persiste depuis que Tilly est revenue sur sa version des faits. Il lui est forcément arrivé quelque chose, non? La disparition de Saphir Maddox. À mi-chemin entre chez elle et chez nous. La silhouette aperçue par la fenêtre le soir de la Saint-Valentin. À moins que mon esprit éméché me joue encore des tours. Le voisin inquiétant de l'autre côté de la rue. À chaque fois que je le vois, il me regarde avec un air qui me glace le sang. La récurrence des agressions sexuelles en plein jour dans leur quartier. Tous ces éléments se bousculent dans sa tête, semant la confusion dans ses pensées. Tilly rentre chez elle un peu plus tard. Georgia fait irruption dans la cuisine.
« Comment va-t-elle ? »
lui demande sa mère.
« Ça va. Tu lui as déjà... Est-ce qu'elle a fini par t'expliquer ce qui lui est arrivé ce soir-là ? » ?
Un peu. Pas trop.
C'est-à-dire ?
Je pense qu'il s'est passé un truc, oui, mais pas ce qu'elle a raconté.
Quoi alors ?
Je sais pas, elle me dit pas.
Mais selon toi ?
J'en sais rien.
Mais, je sais pas, maman, ok ?
T'as qu'à lui demander toi-même si tu veux savoir.
Je...
Maman, Tilly est chelou. Elle est trop bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, c'était rien de grave. Georgia se tait un instant, puis lance un regard appuyé à sa mère.
Si elle se confiait à moi, je te dirais.
D'accord ?
Oui. Merci.